Et ce matin, j'ai eu à cœur de continuer dans le même fil que dimanche dernier. L'heure du bilan. Mais cette fois-ci, du côté cardiaque. J'ai pensé à toi, Guillaume. Mais notre cœur, dans le Seigneur, est-il en bonne santé? Et pour ce faire, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 4, à partir du verset 20. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Proverbes 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Nous attacherons notamment au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ces paroles, elles ont été écrites par un père aimant il y a plus de 3000 ans. Et elles continuent à faire écho jusqu'à nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont paroles de Dieu. Et Dieu s'adresse à nous au travers de ce texte ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous savons tous que notre cœur est un élément essentiel, est un organe essentiel à la vie. Et la version Darby nous le rend ainsi, ce verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Et d'emblée, j'aimerais mentionner deux choses. Le mot hébreu pour garder ou garde ton cœur, eh bien, signifie garder, veiller sur, maintenir, garder avec fidélité. Et cela, renvoyons à l'idée de préserver ce qu'il y a à l'intérieur des agressions de l'extérieur. Et le mot hébreu pour plus que toute autre chose, tel que c'est rendu dans nos Bibles en français, renvoie à l'idée d'un gardien qui surveille bien chacun de ses prisonniers. Et cela demande la plus grande des vigilances, car si un prisonnier s'échappe, la vie même du gardien peut être en jeu. Ainsi, nous devons être le gardien de notre cœur dans deux directions. Un peu comme le garde d'un site sensible, devant éviter à tout prix une intrusion, mais aussi comme un gardien de prison, devant empêcher à tout prix une évasion. Alors, pour ce bilan de santé, il est bien de se rappeler ce matin que nos cœurs sont à la fois influents et à la fois impressionnables. Influents. La Bible est très claire dans tout ce qu'elle nous dit. Les paroles de Dieu, Luc 6, 43, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous ne prenons pas garde, nos paroles peuvent être potentiellement dévastatrices. Proverbe 12, 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. » Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Nos cœurs sont donc influents, mais ils sont aussi impressionnables. Il y a un producteur de contenu médiatique, Ted Turner, qui a dit ceci: vous savez que tout ce à quoi nous sommes exposés nous influence. Les films nous influencent. Les programmes TV nous influencent. Et je pourrais ajouter, tous nos médias nous influencent. Et c'est le réalisateur Olivier Stone qui a dit ceci: le film est un médium puissant. Le film est une drogue. Il va dans vos yeux. Il va dans votre cerveau. Il stimule. Et c'est une chose dangereuse. En fait, est-ce que vous connaissez l'évangile selon Hollywood? Il consiste à dire l'évangile selon Hollywood, et c'est le pire conseil qui sévit dans notre culture aujourd'hui. Il nous dit: suivez votre cœur. Suivez votre cœur parce qu'il est acceptable que vous agissiez sous le coup de vos émotions, même si cela s'avère irresponsable dans les conséquences que ça engendre. Si cela vous fait du bien, alors c'est que ça doit être bien. Si j'ai des sentiments forts à l'égard de quelque chose que je veux, on parle d'un achat coup de cœur, alors c'est que je dois être dans la bonne direction. Et c'est comme cela que certains achats, eh bien, ruinent littéralement des personnes. Il y a plusieurs années de cela, 15 éminents professeurs d'université ont relevé le défi de la question suivante. La question étant: si tous les livres sur l'art de pousser les êtres humains à l'action étaient condensés en une seule phrase, quelle serait cette phrase? Et voici la réponse qu'ils ont amenée. Je les cite: ce à quoi l'esprit prête attention, il le considère. Ce à quoi l'esprit ne prête pas attention, il le rejette. Ce à quoi l'esprit s'intéresse continuellement, il le croit. Ce à quoi l'esprit croit, il finit par le faire. C'est un bon décryptage de comment nous sommes constitués. Dieu nous a confié à tous cette responsabilité solennelle de garder notre propre cœur. Garder notre cœur avec grand soin. Être attentif à son état de santé. S'efforcer même de le connaître. En tout cas, être vraiment honnête devant Dieu quant à sa réelle condition. Et c'est une responsabilité solennelle. Pourquoi? Parce que le texte biblique nous montre que c'est une question de vie ou de mort. Une autre question: est-ce que vous savez quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Eh bien, la différence, c'est que le chrétien a un cœur nouveau. Le chrétien a subi comme une transplantation cardiaque qui, elle, est spirituelle. Il a subi une transplantation cardiaque. Il a reconnu devant Dieu le réel état de son cœur et s'est tourné vers Jésus pour recevoir un cœur nouveau. Comme l'avait prophétisé Ézéchiel en son temps au chapitre 36, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Dans son amour pour nous, Jésus veut changer nos vies, votre vie. Encore faut-il reconnaître, et c'est un préalable, son verdict sur notre propre cœur. Et son verdict, le voici, l'évangile de Jean nous donne cette parole de Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Marc, 7, versets 20 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Quand Dieu nous attire à lui, la première chose qu'il nous fait dans sa grâce, c'est de nous faire prendre conscience de la condition misérable de notre cœur, de notre propre cœur. Et cela doit nous pousser à la repentance devant lui, c'est-à-dire à changer d'avis sur nous-mêmes et à nous tourner vers Jésus pour être sauvés. Et quand nous sommes sauvés, c'est-à-dire nés de nouveau, notre vieille nature n'a pas encore été enlevée, mais une nouvelle nature a été implantée en nous par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'il est beau ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, eh bien, devient alors le principe de vie qui gouverne nos cœurs. Il y a des choses que nous faisons et il y a des choses que nous ne faisons plus. Il affecte la manière dont nous considérons Dieu désormais. Il affecte la manière dont nous voyons et dont nous traitons les autres. La manière dont nous interprétons les circonstances de notre vie. Cette bonne nouvelle du salut affecte aussi notre attitude au travail, l'occupation de notre temps libre, la gestion de nos ressources. Aucun domaine de notre vie ne peut rester étranger à la puissance transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tout change. Tout doit changer. Pour le chrétien, ce verset 23 a toute son importance aussi. Et nous en arrivons au deuxième volet de ce message. Le but principal de Dieu pour chacun de ses enfants n'est pas notre apparence extérieure, ni notre connaissance biblique, ni même ce que nous pouvons accomplir dans la foi. Le premier centre d'intérêt de Dieu demeure notre cœur. Et cela doit rester notre objectif premier. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu nous relate l'histoire sinistre d'un roi qui n'a pas su garder son cœur devant Dieu. Le roi Saul. Au début, c'était un bel homme. Il avait tout pour plaire. Ça, c'était au début. Et pour n'avoir pas gardé son cœur, un jour, le prophète Samuel a dû lui dire ceci, 1 Samuel 13,14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et pour ne pas avoir veillé sur son cœur, eh bien, Dieu a destitué Saul de sa royauté. Alors avançons et creusons ce proverbe, ce verset 23 est un ordre. Ce n'est pas une option à prendre ou à laisser, non, c'est un ordre. C'est le puritain John Flavel qui a écrit dans un de ses livres, le titre c'est « Garder son cœur » en 1826, il a dit ceci, « Le plus grand défi après la conversion est de garder le cœur droit avec Dieu. » Je le répète parce que c'est important, « Le plus grand défi après la conversion est de garder le cœur droit avec Dieu. » Et c'est bien faire que de prêter attention à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Par exemple, Jean Calvin, le réformateur, a dit ceci, « Nous devons avoir une vraie connaissance de Dieu et une vraie connaissance de nous-mêmes. Nous devons étudier la parole et nous étudier nous-mêmes. » En nous interrogeant souvent et honnêtement devant Dieu. Nous devons être des étudiants de nos propres cœurs. Ne soyez jamais étrangers à votre propre cœur. Voilà ce que nous dit Calvin. Et plus près de nous, un prédicateur contemporain de Charles Spurgeon, Octavius Winslow, a dit « En chacun de nous, il y a une tendance à s'éloigner de Dieu de façon secrète, perpétuelle et alarmante. » Est-ce que nous en avons conscience? Est-ce que nous le reconnaissons? Peut-être l'illustration va te parler un peu plus, Pierrette. C'est l'histoire vraie d'un violoniste qui, en tant que musicien, eh bien, a toujours eu accès à un violon Stradivarius pour jouer. Et ce violon, bien qu'il valait des millions, eh bien, il se désaccordait constamment. Il fallait constamment le réaccorder avant une interprétation. Et un chrétien, apprenant cette histoire, eh bien, pensait que les meilleurs violons ne se désaccordaient pas si facilement. Et ce fut une révélation pour lui, parce qu'il réalisa que c'était faux. Les violons, aussi bons, aussi uniques soient-ils, eh bien, ils se désaccordent. Et Dieu parla au cœur de ce chrétien, tout comme il veut parler aux nôtres, à Pierrette et à chacun d'entre nous, à nous tous. Notre propre cœur, qui vaut infiniment plus qu'un violon Stradivarius, est toujours enclin à dévier, à décliner, à s'éloigner du Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nés de nouveau, que nous sommes dépositaires du Saint-Esprit dans notre vie, que nous ne pouvons pas dévier, et même parfois gravement, quant à ce que Dieu attend de nous. Si là où vous habitez, il n'existe qu'une porte d'entrée pour votre domicile, et que vous sachiez qu'un voleur allait essayer d'y pénétrer, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez concentrer tous vos efforts pour sécuriser au maximum la porte d'entrée. Et dit simplement, la seule porte d'entrée de votre cœur, ce sont vos pensées. Et la seule façon de protéger, de garder votre cœur, revient à filtrer les pensées que vous laissez s'installer, voire élire domicile chez vous. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette citation de Martin Luther qui avait l'habitude de dire « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. » Ouais, ok. Mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Alors permettez-moi cette question. À quoi ressemble le tableau de bord de votre cœur ce matin? Est-ce que tous les voyants sont au vert? Est-ce qu'il y a des voyants orange qui clignotent? Attention. Ou y a-t-il des voyants rouges qui sont allumés et qui le restent constamment? Frères et sœurs, vous connaissez la parole de Dieu qui nous demande de veiller et prier, qui nous demande de nous nourrir de la parole de Dieu, de ne pas négliger la communion fraternelle, de penser aux autres plutôt qu'à soi, comme Jésus, etc., etc. Vous connaissez la parole de Dieu. Et face à toutes ces attentes, est-ce que vous y avez des excuses? Est-ce que vous y avez des prétextes pour ne pas mettre tout cela en pratique et dire progresser dans le bon sens? Êtes-vous, comme le dit Calvin, un étudiant de votre propre cœur, dans le sens où vous laissez la parole de Dieu vous mettre à nu quant à vos propres, quant à vos réelles motivations? Pourquoi est-ce que je fais ceci et pas cela? Et qu'est-ce que me dit la parole? Est-ce que je le regarde en face? Que faisons-nous pour contrer cette sinistre tendance au péché dans notre propre cœur? Eh bien, nous devons stopper le péché dès qu'il veut nous envahir. En image, c'est un peu comme une grosse pierre au sommet d'une colline. Si la pierre commence à bouger dangereusement, eh bien, il est plus facile de l'arrêter dès le début. Mais lorsque notre péché devient une grosse pierre, qui roule de plus en plus, et ça nous entraîne toujours vers le bas, eh bien, il est parfois impossible de l'arrêter. Et en tout cas, elle finit par nous envoyer au tapis. Et la vie de nombreux chrétiens est tristement la longue histoire d'un cœur qui n'a pas été gardé devant Dieu. Soyez vigilants. S'y apparaissent sur le tableau de bord de votre cœur des lumières clignotantes qui exposent votre égoïsme ou votre indépendance ou votre froideur quant à l'Église ou votre esprit de jugement, que sais-je. Suivons les bons exemples. Tel celui de ce serviteur de Dieu, Jonathan Edwards, qui avait pris cette résolution personnelle dans sa vie, je le cite, qu'il était résolu de s'enquérir chaque soir, au moment de se coucher, des négligences qu'il avait commises, des péchés qu'il avait commis, et où il s'était renié. Et cela également à la fin de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année. C'était un homme qui gardait son cœur plus que toute autre chose. Et il n'est pas étonnant quelque part que Dieu l'a utilisé puissamment dans sa grâce. Alors pour conclure, verset 25, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. » Et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Un autre serviteur de Dieu, Robert Murray McShane, a dit ceci, « pour chaque regard sur soi, eh bien, regardez 10 fois à Jésus. Pour chaque regard que vous avez sur vous-même, eh bien, regardez 10 fois à Jésus. Qui que nous soyons, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et si nous mettons notre cœur à nu devant Dieu, face à la parole de Dieu, eh bien, le diagnostic n'est pas bon quant à notre cœur. Je le sais pour moi-même. Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Mais rappelez-vous, amis, ce qu'est le glorieux message de l'Évangile. Jésus veut changer nos cœurs, votre cœur, et vous donner un cœur nouveau qui connaît son amour. Venez à lui, venez à Jésus. Et si Christ a déjà changé votre cœur, frères et sœurs, parce que vous êtes nés de nouveau, alors regardez les choses en face. Regardez à Jésus qui est votre Sauveur, mais qui est aussi Seigneur. Et ça doit être une histoire de cœur à cœur entre Jésus et son disciple. Êtes-vous à l'écoute des battements du cœur de Jésus pour vous? Oh. Quand Jésus, dans son amour pour vous, est allé jusqu'à la croix afin de vous sauver d'une ruine éternelle. L'heure du bilan côté cardiaque, c'est que Jésus, dans son amour, veut prendre soin de nous. Laissons sa parole poser le bon diagnostic sur notre vie. Et même s'il ne fait pas plaisir, c'est parce que Jésus, dans son amour, veut extirper ce mal, ce poison du péché. Sachons honnêtement y faire face. Parce que Jésus recherche votre bien, Jésus recherche notre bien. Amen.